Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi entre 17h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, le magazine consacré à l'université Lille 1. Nous allons parler aujourd'hui de l'égalité femmes-hommes avec Madame Laurence Marsal. Bonjour Madame Marsal.
Bonjour.
Donc vous avez au niveau de l'université Lille 1 une mission particulière, donc celle de réfléchir et de proposer des solutions quant aux problèmes que vous rencontrez entre l'égalité, la parité, on définira après, entre les hommes et les femmes.
Oui, cette mission en fait concerne à la fois les personnels de l'université, parce que on a une structure un petit peu particulière ici, donc il y a les personnels. Donc comme dans toute entreprise, on va dire, il peut y avoir des problèmes d'égalité femmes-hommes liés au fait que les femmes occupent des postes moins élevés, sont moins représentées dans le conseil d'administration, par exemple. Mais on a aussi tout un aspect qui est lié au fait que nous sommes une université, donc nous formons des étudiants. Et à partir de là, on peut se demander le rôle qu'on a à jouer par rapport à l'égalité femmes-hommes et ce qu'on peut transmettre à ces étudiants au cours des années qu'ils passent chez nous.
Voilà, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec les élèves des lycées qui s'orientent vers des carrières ou des formations selon des filières qui sont un peu inégalitaires, on va dire, en termes de proportion homme-femme parfois.
Il est bien connu que, par exemple, il y a beaucoup moins de filles en terminale scientifique que de garçons. Et donc déjà, il y a une inégalité qu'on peut constater. Et en plus, qui est problématique, puisqu'on sait que les bacs scientifiques orientent vers plus de métiers, on dit toujours, et vers certains types de métiers, vers des métiers, par exemple, d'ingénieurs, entre autres. Et ça fait que les filles sont très peu présentes dans ces formations-là et se retrouvent très peu dans les métiers d'ingénieurs. Et donc, elles ratent certains types de carrières. Donc, on peut essayer d'inciter les filles dès le lycée, en fait, dès leurs études dans le secondaire, à s'orienter vers des filières peut-être plus scientifiques, en leur disant que c'est des filières qui sont intéressantes, qui ne sont pas moins que d'autres filières, qui sont tout aussi ouvertes et adaptées pour elles, et qui peuvent leur permettre d'accéder à des carrières et à des métiers intéressants et passionnants.
Alors quand on dit intéressant et passionnant, c'est sûr, mais mieux payé aussi ?
Alors, en fait, assez paradoxalement, par exemple, dans les métiers d'ingénieur, c'est un des métiers, je crois, où finalement la différence de salaire entre les hommes et les femmes est la plus faible. Mmh. Donc en fait, il y a souvent en avant le fait que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Mais voilà, si vous êtes ingénieur, eh ben, vous avez plus de chances d'être aussi bien payé qu'un homme que si vous faites un autre métier.
Donc voilà, pour l'égalité de traitement, dans le sens financier du terme, il faut que les femmes s'investissent davantage dans des études longues.
Ingénieur. Ah oui. De toute façon, en règle générale, si vous voulez avoir un métier, je pense que les études longues pour les hommes comme pour les femmes sont les études qui permettent quand même le plus d'éviter le chômage, d'avoir un métier, de s'en sortir dans la vie, quoi. Donc les femmes n'ont pas à moins s'en priver que les hommes. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les femmes anticipent une conciliation avec la vie familiale, mmh, et se disent que de toute façon, elles ne pourront pas mener ce type de carrière parce qu'un jour, elles auront des enfants et elles devront s'en occuper. Et voilà. Et donc, certaines se privent dès le début de faire certaines études parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas mener la carrière qui va avec. C'est quand même dommage.
Bon. Donc, déjà au départ, vous avez édité une plaquette qui permet de faire prendre conscience aux jeunes filles qui sont en lycée des possibilités qu'offre l'université pour elles.
Oui, ça a été une des actions qu'on a menées cette année avec le groupe de travail égalité femmes-hommes de l'université. On a créé une plaquette que nous avons distribuée donc aux journées portes ouvertes de l'université de Lille 1 et que nous essayons actuellement donc de diffuser dans les lycées de la région pour leur montrer au moyen de divers témoignages et au moyen d'un petit quiz qui met en avant les idées reçues qu'on peut avoir sur les hommes et les femmes et qui essaye de dénoncer ces idées reçues pour essayer de montrer aux femmes qu'en fait c'est tout à fait accessible pour elles et c'est possible.
Alors, deuxième chantier auquel vous attaquez, qui entre dans vos missions, c'est les problèmes de harcèlement. Alors, est-ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel? Je ne sais pas, mais de harcèlement moral, ça existe aussi dans le travail. Est-ce que les femmes sont plus visées que les hommes dans ce domaine?
Alors, pour resituer un petit peu les choses, c'est Sandrine Rousseau qui était à l'époque vice-présidente pour la vie étudiante et pour l'égalité femmes-hommes, qui avait lancé l'idée, il y a peut-être bientôt maintenant 2 ans, de monter une cellule de prévention du harcèlement sexuel. Puisqu'à l'université en fait Lille 3, il existe une cellule qui traite du harcèlement sexuel. Et donc on avait eu l'idée de faire la même chose ici à Lille 1, et aussi du fait que Sandrine Rousseau avait été, de par sa mission, contactée un certain nombre de fois par des gens pour des problèmes de harcèlement. Donc elle avait dit qu'il faut créer une cellule pour accompagner ces gens. Donc cette cellule, il y a un groupe de réflexion qui a travaillé dessus. La question a été tout de suite de savoir si on s'occupait uniquement du harcèlement sexuel ou du harcèlement sexuel et moral. Et donc on a décidé d'essayer de prendre en charge les deux. Et le harcèlement sexuel concerne, et moral d'ailleurs, concerne aussi bien les personnels que les étudiants. Hein, parce que il peut y avoir des cas de harcèlement sexuel sur des étudiants. Et donc l'objectif de cette cellule, en fait, parce que bon, il faut quand même dire qu'à l'université, il existe des structures qui sont à même d'aider les personnes qui ont des problèmes de harcèlement. Il y a le médecin de prévention, il y a les assistantes sociales, il y a des psychologues, il y a des syndicats. Le but de la cellule est simplement d'être un lieu d'entrée supplémentaire ou d'écoute ou d'accueil pour des personnes qui sont confrontées à de tels problèmes, pour venir nous trouver et essayer. Et nous, on essaye de les... Enfin, la cellule n'existe pas encore, elle est en cours de création. On essaiera de les accompagner, de les aider, de les écouter, de les orienter, parce que bien souvent, les gens ne savent pas forcément ce qui peut être fait au sein de l'université. Par exemple, si quelqu'un est harcelé au sein de l'université, il peut poser une plainte auprès du président de l'université, celui-ci doit diligenter une enquête, et après, éventuellement, on peut saisir la section disciplinaire de l'université, parce qu'apparemment, beaucoup de gens croient que la section disciplinaire, c'est uniquement pour les fraudes des étudiants, mais pas du tout. Et la section disciplinaire peut, juger un enseignant-chercheur, un personnel biatos, un étudiant, par rapport à des faits qu'ils ont commis.
Est-ce que l'université, d'une manière générale, est différente de la société, puisque une société, elle est globale. Est-ce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques sociologiques ou comportementales dans une université que dans la société, on va dire, réelle ?
Alors ça, c'est une question que je trouve très intéressante, parce que en fait, par exemple, on dit souvent que dans la société donc réelle, comme vous dites, il y a le problème de ce qu'on appelle le plafond de verre pour les femmes, à savoir que les femmes arrivent à un moment donné, elles stagnent au niveau de leur carrière, elles n'ont pas accès au poste de plus haut niveau, de plus haute responsabilité. Et en fait, si on regarde les chiffres qu'on peut avoir chez nous à l'université au niveau des personnels, ça se reproduit un petit peu, parce que par exemple, dans le conseil d'administration, il y a très peu de femmes. Dans le conseil scientifique de l'université, qui est un organe aussi qui gère la partie recherche de l'université, il y a très peu de femmes. Par contre, vous en retrouvez plus dans le conseil des études et de la vie universitaire. Voilà. Mais et aussi au niveau des directeurs de laboratoire, au niveau des enseignants-chercheurs, on est en deux catégories, un maître de conférence et professeur d'université. Professeur d'université, c'est le grade supérieur. Je crois qu'il y a 15% des femmes ici qui sont... 15% des professeurs d'université qui sont des femmes à Lille. Donc c'est quand même très peu. Donc effectivement, on a le même... alors après, je ne sais pas, c'est dur de comparer, mais on a le même, on a aussi ce plafond de verre, par exemple, où les femmes n'arrivent pas à occuper les plus hautes responsabilités à l'université non plus.
Alors, on dit souvent que l'université se banalise en termes de public et de pratiques, par exemple culturelles ou autres. Par contre, on peut quand même admettre que c'est un lieu où l'intelligence est un peu plus importante que dans d'autres. Est-ce que le fait d'être intelligent, ça résout beaucoup de problèmes, notamment les problèmes d'égalité ou d'inégalité homme-femme ou femme-homme, comme vous voulez? Et notamment, tout à l'heure, on parlait de pression, de harcèlement. On pourrait imaginer que l'intelligence dépasse la bête.
Alors ça, c'est une question qui dépasse largement le sujet de l'égalité femmes-hommes. Hein. Mon point de vue à moi, il n'engage que moi, c'est que je pense qu'au sein de l'université et des universitaires, donc enfin, vous avez... je ne sais pas si les gens sont si différents que ceux dans la société, j'ai envie de dire. Et par exemple... Par rapport aux histoires de harcèlement, j'ai lu un document qu'ont écrit mes collègues de Lille 3 qui disait que l'université était aussi un lieu de pouvoir et que finalement, par ces enjeux de pouvoir qui existaient aussi à l'université, on retrouvait les mêmes problèmes de harcèlement qui se retrouvent partout. Donc en fait, moi, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas très différent des autres à ce niveau-là.
Si on complète la question, est-ce que l'intelligence permet aussi à des gens de s'en servir à des fins qui ne sont pas forcément louables?
Alors là, c'est encore une question, oui, je pense, mais bon, en même temps, il y a aussi des gens qui servent de leur intelligence pour essayer de corriger un petit peu tout ça, donc ça va dans les deux sens.
Voilà, donc ça compense.
Ça compense, on espère.
Donc, on sait que l'université est très attachée à sa réputation et bien sûr à la valeur de ses composantes, tous les personnels et les étudiants qui la composent. Il y a aussi des normes comme l'AFNOR qui entrent aussi dans la considération des universités. Est-ce que vous travaillez dans le cadre de normes?
Alors, comment dire, on travaille avec l'AFNOR au sens où nous avons déposé une demande de labellisation égalité professionnelle auprès de l'AFNOR. Alors il faut un petit peu préciser parce que justement les labellisations égalité professionnelle concernent pas spécifiquement les entreprises, les universités, bien au contraire, elles concernent essentiellement les entreprises. Le label égalité professionnelle décerné par l'AFNOR est un label qui valide le fait que dans une entreprise donnée, il y ait un certain nombre de démarches liées à l'égalité entre les femmes et les hommes dans cette entreprise et des indicateurs plutôt positifs par rapport à cette égalité-là. Donc en fait, donc j'insiste bien sur le fait que c'est une certification destinée aux entreprises. Je crois qu'il y a une collectivité territoriale qui l'a demandé, c'est la ville de Rennes, qui l'a obtenue, je pense. Et donc Sandrine Rousseau a entamé la démarche d'une demande de labellisation et on serait la première université, en tout cas on est la première université à l'avoir demandé. Et donc c'est... L'idée de cette labellisation, c'est d'essayer de mettre au point des critères qui essayent de, enfin, des indicateurs qui indiquent quel est le niveau d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'université, sachant qu'on a un fonctionnement qui est différent des entreprises et donc il faut des indicateurs spécifiques. Par exemple, chez nous, on peut regarder pour les enseignants-chercheurs, on peut regarder les promotions à la hors-classe, les promotions dans les grades, ce qui n'existe pas dans des entreprises. Et on a des indicateurs spécifiques pour voir si les femmes ont accès à ces promotions, par exemple, de manière équivalente aux hommes. Et donc, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça qu'on peut mettre au point. Et donc on fait une demande de labellisation, et si on obtient le label, ça veut dire aussi qu'on s'astreint à un contrôle par l'AFNOR régulier de ces indicateurs pour voir si nous les tenons, si nous avons des projets de progression, et est-ce que nous suivons cette progression, est-ce que nous réussissons ou pas. Donc voilà un petit peu en quoi consiste cette certification. Mais bon, c'est un point assez délicat parce que, par exemple, en fait, il y a beaucoup de leviers qu'on n'a pas au sein de l'entreprise, enfin au sein de l'université. Pour les promotions, par exemple, enfin, quand on recrute des enseignants-chercheurs, c'est des petits comités qui recrutent chacun une ou deux personnes. Il n'y a pas forcément de globalisation ou de vision globale des recrutements. Donc, ils vont recruter un petit peu comme ça. Et il n'y a rien qui va garantir que cette année de recrutement, les recrutements faits cette année, vont être plus féminisés que l'an passé, par exemple. Donc, ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de leviers pour modifier l'état des faits. Enfin, on en a, mais on n'a pas toutes les clés en main, contrairement à une entreprise, j'ai envie de dire, ou si éventuellement une DRH a décidé d'une politique, elle peut éventuellement l'appliquer. Nous, c'est assez différent. Donc, ce n'est pas évident.
Donc, ça, vous rassurez quand même des gens en disant que l'université n'est pas une entreprise comme les autres.
Non, non, pas du tout.
Au-delà de ça... Le fait d'utiliser, j'allais dire, d'exploiter des compétences, certainement, ou des contraintes comme l'AFNOR, c'est peut-être bien vu aussi du côté des entreprises qui, justement, sont de plus en plus nombreuses à siéger dans le conseil d'administration.
Moi, je pense que enfin, comment dire, l'appel, l'utilisation à l'AFNOR, c'est aussi un intérêt de pouvoir à la fois mettre en avant cette certification pour l'université Lille 1 et de valider la politique en matière d'égalité femmes-hommes de Lille 1. Et moi, je le vois aussi surtout comme un outil, parce que j'ai un petit peu regardé de près le dossier qu'on avait déposé auprès de l'AFNOR, c'est quand même un outil justement de. Il y a eu une réflexion de l'AFNOR sur quelles sont les bonnes choses à mesurer, où est-ce qu'il faut regarder pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est aussi un outil de travail pour nous au niveau de l'université qui est un bon outil.
On a aussi dans l'université des sociologues. Est-ce qu'eux sont en mesure de proposer aussi sinon cet outil-là, peut-être d'autres outils qui ont aussi d'autres intérêts, peut-être des intérêts plus fins, puisqu'adaptés aussi au milieu qu'ils connaissent bien?
Alors effectivement, il y a des sociologues à Lille 1 et donc on a un groupe de travail égalité femmes-hommes et dans ce groupe de travail, donc les gens qui participent, ils participent tout à fait bénévolement. Nous avons quelques sociologues, aussi des économistes qui travaillent sur des problèmes de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc on a des gens qui sont dans ce domaine-là et on essaye, et moi je sais, enfin comme moi je suis mathématicienne, je sais pas forcément mon domaine à la base, donc on a beaucoup de discussions à ce propos. Et par exemple, là j'ai un projet de faire un stage de Master 2 à quelqu'un pour travailler, enfin quelqu'un qui est en Master 2 de sociologie, pour faire une étude un peu fine, qualitative, sur les raisons pour lesquelles, enfin, les raisons pour lesquelles les personnels BIATOS, par exemple, les femmes réussissent moins bien, entre guillemets, que les hommes. Parce qu'on a fait une étude qualitative, non, quantitative l'an passé. On a fait faire une étude par des mathématiciens, justement, quantitative. Et on aimerait bien analyser ces chiffres et comprendre les raisons. Et donc là, on voudrait faire faire une étude par une sociologue.
Est-ce que dans le cadre de votre groupe, tout le monde peut proposer de donner ses services, d'un peu de temps de réflexion à vos problèmes, ou est-ce que c'est un groupe fermé?
Alors, c'est pas du tout fermé. Alors, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, non, 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 il y a encore eu enfin, un message dans l'illico il n'y a pas très longtemps. Enfin, ce groupe de travail est ouvert et j'insiste bien sur le fait que les bonnes volontés sont venues. Là, par exemple, on a été sollicité pour participer au festival Mixité en mai. Et donc, on a commencé à discuter entre nous sur ce qu'on pouvait faire pour y participer. Et voilà, quelqu'un a parlé de projeter un DVD. Donc, on va regarder le DVD. Enfin, les idées, plus il y a de monde, plus il y a d'idées. Et c'est mieux, hein.
Alors, quand vous dites mixité comme ça sans l'écrire, effectivement, on pourrait imaginer que c'est un rapport avec notre thème d'aujourd'hui. On peut peut-être le préciser quand même.
Oui, excusez-moi, mix, cité en fait, voilà, c'est un jeu de mots, ça s'écrit mix, M-I-X, cité comme la cité. Et donc c'est un festival qui a lieu à Lille 1 depuis quelques années déjà, et qui est un festival en fait, l'idée c'est d'ouvrir l'université sur la ville qui l'entoure, sur la métropole, et de faire un échange entre les deux. Donc ça n'a pas à voir avec la mixité au sens femme-homme, c'est plutôt la mixité entre l'université et son environnement, la ville qui l'entoure.
Voilà, c'était bon de le préciser. Au sein de votre groupe, on retrouve une certaine parité, ou est-ce que vous souhaitez un rééquilibrage, et peut-être dans quel sens? Je ne sais pas par qui il est composé.
Alors, dans notre groupe, nous avions deux hommes. Jusqu'à présent, on est à peu près, dans les gens qui viennent régulièrement, on va dire une vingtaine ou 30 personnes. Donc, il y en a un qui a dû arrêter, parce qu'il est pris par ailleurs. Donc, voilà, nous avons très peu d'hommes, mais après, bon, comme les gens, enfin, c'est à chacun de décider de venir, on ne peut pas forcer. Mais je pense que c'est des hommes qui sont intéressés par cette problématique, en fait. Et c'est vrai que les femmes se sentent peut-être plus concernées à la base que les hommes. Mais les hommes sont les bienvenus.
Voilà, donc on peut faire appel aujourd'hui, hein, sur cette antenne, hein, à qui on s'adresse effectivement pour proposer.
Ben, il suffit de m'envoyer un message à mon adresse électronique à l'université.
Bon, on le trouve où?
Alors, vous pouvez aller voir sur le site web de. Donc, si vous allez sur le site web de l'Université de Lille 1, dans la présentation, il y a un onglet Université responsable. Et là, vous arrivez sur le site web de l'égalité femmes-hommes à Lille 1. Et donc, au passage, il y a mes coordonnées, Laurence Marsal, @univ-lilin.fr.
Voilà, oui, j'y arrive.
Oui.
Sinon, au-delà de ça, sur le site de l'université, il y a beaucoup de choses très intéressantes, et notamment des débats, des conférences qui sont retransmises, qui sont visionnables. Les conférences qui sont enregistrées sur l'université, est-ce qu'il y en a déjà qui ont été présentées ou qui sont encore en présentation sur le site Lilin TV ou des choses comme ça?
Donc des conférences sur le thème de l'égalité, ouais, femmes-hommes. À ma connaissance, il n'y en a pas, parce que je réfléchis, il y en a, je ne sais pas si on, non, il n'y en a pas eu récemment. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais ce serait une bonne idée que d'en mettre, ouais. Notamment qu'on en a préparé une pour essayer d'inciter les lycéennes à faire des études scientifiques, donc on pourrait effectivement le mettre sur Internet.
Radio Campus, force de proposition.
Exactement.
N'hésitez pas aussi à amener des hommes dans le cadre de ce magazine pour traiter notamment des problèmes dont vous parlez. Hein. Effectivement, donc, est-ce que d'une manière générale, vous sentez les choses, que les choses évoluent positivement dans l'université, voire dans la société en général, ou vous ressentez des risques de régression?
Alors, c'est assez compliqué parce que, par exemple, moi, assez naïvement, je pensais que actuellement, par exemple, le partage des tâches domestiques s'équilibrait plus que dans le passé. Et j'ai découvert assez récemment qu'il n'en était rien. Donc je pensais que c'était une évolution qui suivait son cours, et c'est pas vrai. Donc ça m'a assez étonnée. Donc du coup, je suis assez. Donc je me méfie un petit peu de mon intuition naturelle, si vous voulez. Mais par ailleurs. En fait, on a tout type de réaction. Moi, j'ai le sentiment que c'est très varié, en fait, donc je ne sais pas dire comment ça évolue. Par exemple, on a constitué ce qu'on appelle les comités de sélection à l'université. Donc, les comités de sélection, c'est un groupe de personnes qui est chargé de recruter un enseignant-chercheur, un maître de conférence ou un professeur d'université. Et donc, il y a quand même la politique de l'Université de Lille, c'est d'essayer d'avoir des recrutements raisonnablement féminisés. Et ça passe par avoir des comités de sélection féminisés. Parce que les comités de sélection, finalement, sont aussi des lieux de pouvoir, en quelque sorte. Et donc, il faut que les femmes puissent aussi agir à ce niveau-là. Et en fait, on a des directives pour essayer de féminiser nos comités de sélection. Et il se trouve que, par exemple, moi, dans l'équipe où je travaille, tout le monde a bien pris ces directives et tout le monde l'a pris de façon sans remettre la chose en cause, sans la discuter, en trouvant ça assez naturel. Donc, par exemple, c'était plutôt une bonne surprise.
Voilà, donc les efforts entrepris commencent à porter leurs fruits.
Oui, enfin après, je ne sais pas exactement à quelle échelle ça porte ses fruits, quoi, mais parce qu'il y a aussi des fois des gens, justement, pour ce même sujet, vous voyez. Parce qu'il y a des façons aussi un petit peu maladroites de faire. Je pense que, par exemple, à un moment donné, mettre une femme dans un comité de sélection en disant « on t'y met parce que t'es une femme », c'est très mauvais, c'est très maladroit, c'est pernicieux. Je pense qu'il faut dire qu'on y met la femme parce qu'elle est compétente, et qu'on a besoin de féminiser un petit peu ces comités, donc il ne faut pas oublier le mot compétent. Et du coup, je pense que, par exemple, certaines femmes l'ont mal pris, en même temps, de se retrouver à participer à ces comités de sélection, pour cette raison-là, ce qu'on peut comprendre.
Voilà, il faut mettre de la raison et du bon sens avant, peut-être, les idéologies qui s'appuient sur du sable.
Oui, et puis surtout, je pense qu'il faut dire les choses. Il faut, c'est un sujet délicat, et je pense qu'il faut du coup faire attention à ce qu'on dit.
Bien, merci pour ces propos à la fois rassurants, mais aussi qui sont un enjeu d'aller plus en avant dans la résolution de ces problèmes. Laurence Marsal, bonne soirée.
Bonne soirée.